Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour à 9h50. C'était quand même une longue entrevue là, avec Fernand Dalouz, 14 minutes. Là, on va partir en fait l'entrevue qu'on avait avec Louise. Bienvenue, professeure à la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke en histoire, qui est venue nous parler, qui était une des panélistes justement. D'ailleurs, Fernand Dalouz aussi était une des panélistes. Peut-être de réaliser qu'on l'a jamais dit. Mais bref, Louise Bienvenue est aussi une des panélistes. Elle est venue nous parler un petit 10 minutes, justement. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Enzo.
Bah oui, c'est ça. C'était une des panélistes du regard croisé auquel on a pu assister sur la question de l'émancipation des femmes, et qui avait été organisée par l'association des Burkinabés de l'Estrie. Puis c'est ça, c'est une prof en histoire à l'université de Sherbrooke. Elle avait un regard intéressant donc aussi sur l'éducation et le l'impact que ça pouvait avoir sur la question des femmes. Et notamment, elle a pas mal parlé du programme
c'est un certificat en sexualité, ouais.
Ah oui, voilà, c'est le certificat en sexualité à l'université de Sherbrooke qui justement met de l'avant la perspective féministe et de l'émancipation des femmes. Donc elle avait ce regard-là porté sur la question de l'éducation nationale et de l'apprentissage sur la question des femmes. Donc c'était bien intéressant d'avoir cette spécificité-là dans le panel. Et puis donc, je pense qu'on va pouvoir laisser nos auditeurs écouter l'interview qu'on a fait avec elle.
Exact. Je débute ça maintenant. Bonne écoute. Donc, on est là en ce moment avec Louise Bienvenue, professeure d'histoire à l'Université de Sherbrooke dans la Faculté des lettres et sciences humaines. Donc, première question, en fait, c'est vraiment, je la pose à tout le monde. Qu'est-ce que ça fait, en fait, d'être ici aujourd'hui? Comment vous avez trouvé ça, justement, de participer à ce panel-là, justement, sur qui est en commémoration à la Journée des droits des femmes? Donc, je laisse la parole.
Oui, bien, je suis ravie de participer à cette rencontre. J'ai été honorée d'être invitée. Pour moi, de participer en tant que historienne des femmes, en tant que spécialiste d'histoire du Québec, c'est rare que je sois invitée à titre de panéliste dans des associations avec des gens qui viennent un peu de différentes communautés, avec des thèmes qui sont un peu interculturels. Et là, j'étais ravie de pouvoir échanger avec des collègues et donc pouvoir aussi comparer la situation des femmes ici au Québec et à l'étranger dans différents pays occidentaux, mais non occidentaux aussi. Je pense que cette mise en commun des savoirs a été très riche. Et puis, c'est une très belle expérience pour moi.
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais clairement donner le micro à mon collègue.
Merci. Moi, je vais vous poser une question par rapport à un enjeu que vous avez relevé pendant la conférence. C'était l'enjeu de la question du temps. Et c'est vrai que la question du temps, c'est quelque chose qui touche particulièrement les gens du monde du travail, les travailleurs en général, par rapport au nombre d'heures qu'on peut faire par semaine, des rapports qui montrent que maintenant, de plus en plus, on est sollicité en dehors de nos heures de travail. Bon, donc pour des gens qui ont des familles, c'est un enjeu que complexe. Des fois, il y a une incompréhension aussi vis-à-vis des travailleurs, parce que les technologies augmentent, mais on passe de plus en plus de temps au travail. Mais là, aujourd'hui, on parlait de la question des femmes, et pour les femmes, cet enjeu, il est encore plus complexe, parce que souvent c'est les femmes qui vont devoir faire le travail invisible, ce qu'on appelait le travail invisible, le travail à la maison, le travail avec les enfants, avec l'éducation, avec toutes ces tâches là et en fait ça creuse encore plus les inégalités au sein du couple hétérosexuel, en fait, cette question du temps. Et voilà, j'aurais voulu vous laisser développer un peu sur cette question là qui, je pense, peut intéresser beaucoup d'auditeurs.
Alors, pour moi, c'était important d'apporter cet enjeu-là qui semble peut-être pas le plus évident quand on parle de la question des femmes, de la condition féminine. Mais je pense que si on rapproche cette question-là du rapport au temps, de tout ce que vous venez de soulever, en particulier cette fameuse double tâche là, qui incombe souvent aux femmes qui sont à la fois mères, ménagères, mais aussi qui doivent performer sur le marché du travail, bien forcément, ça crée une société qui est ma foi, toujours en train de courir. Il y a plusieurs personnes qui éprouvent le sentiment d'être dans une course perpétuelle, sans pouvoir vraiment reprendre leur souffle, qui se lèvent le matin, qui doivent aller porter les enfants à la garderie, ensuite courir au travail, revenir en courant, la course, la course, la course. Et je pense que, même si c'est un enjeu qui n'est pas uniquement féminin, je pense que les femmes peuvent peut-être porter un peu mieux cette réflexion-là, cette cause-là, et ouvrir la réflexion sur plus large, sur le rapport au temps. Il y a plusieurs philosophes qui ont réfléchi à notre rapport au temps, qui soulignent à quel point les sociétés occidentales avancées sont dans une accélération perpétuelle, et tout ça pèse sur les individus. Il y a un climat de performance qui s'ajoute évidemment au décor et qui ne fait rien pour nous alléger un peu les épaules. Et il me semble que c'est une question urgente, mais dont on ne parle jamais, parce que la ressource temporelle, on a l'impression qu'elle est toujours compressible. On peut rajouter du travail, on peut rajouter des obligations, rajouter une soif de performance, mais comme si le temps était toujours extensible, ce qui n'est pas dans la réalité. Puis on voit bien avec l'épidémie d'épuisement professionnel et personnel à quel point il y a un problème là qui n'est pas souvent abordé, en tout cas pas d'un point de vue politique. Hein. On le médicalise beaucoup, comme si ça reposait sur les hommes et beaucoup les femmes qui doivent prendre des antidépresseurs pour redevenir performantes et retourner le plus vite possible dans la roue qui tourne, la roue qui ressemble à celle du hamster. Donc, je pense que j'avais envie de soulever cette préoccupation-là. J'ai pas d'idée très précise sur la transcription politique d'une telle cause, comment on peut la faire cheminer, mais je pense que c'était nécessaire qu'on se pose cette question-là.
Une autre question pour vous, justement, vous avez parlé des acquis, justement, qu'on a eu justement au Québec. Là, vous avez fait vous avez relaté plusieurs événements, notamment vous avez parlé de Marie-Claire Kirkland avec la loi 16. Vous avez d'ailleurs eu l'anecdote que vous avez. Je crois en fait c'est Christine Aubry qui avait soulevé l'anecdote qu'elle ne pouvait pas louer, justement, signer son propre bail pour aller siéger à l'Assemblée nationale. Donc moi, la question, ça serait en fait d'un côté plus récent. Est-ce qu'on a peut-être des acquis ou peut-être simplement une perception que quelque chose a avancé? Donc, je vous redonne la parole.
Il y a eu une recrudescence importante du mouvement des femmes dans les dernières années, je dirais peut-être dans la dernière décennie. C'est difficile à dater. J'ai l'impression que depuis le printemps érable de 2012, il y a quelque chose qui s'est passé, mais surtout à l'international, hein, on observe à quel point il y a eu une mobilisation autour du mouvement MeToo, moi aussi, et la dénonciation des violences sexuelles faites aux femmes. Et je pense que autour de cette cause précise, là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué rapidement dans les mentalités, dans la nécessité d'aller plus loin dans les revendications féministes, de moins tolérer des choses qu'autrefois on disait entrer dans la culture, une sorte de rapport homme-femme où le consentement n'était pas toujours présent, des petites violences au quotidien qui étaient tolérées dans les milieux de travail et qui, assez rapidement, sont devenues condamnées. Bon, c'est pas un mouvement qui est parfait au sens où il y a eu des dommages collatéraux, si on peut utiliser cette expression-là. Mais je pense que si on veut, quand on regardera dans 10 ans, dans 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé au Québec dans nos années, je pense qu'on ne pourra pas passer outre le fait de nommer, de pointer du doigt cette accélération des rapports hommes-femmes liés au mouvement MeToo. Donc, je pense que autour de ça est en train aussi de s'élaborer une réflexion sur l'accès des femmes à la justice, la façon d'accueillir les femmes aussi. Il y a l'expérience des tribunaux spécialisés pour les violences à caractère sexuel. Tout ça bouge, mais c'est surtout, je dirais, sur le plan culturel que les choses se sont transformées. Ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, tout ça a bougé assez rapidement de mon point de vue.
Merci pour votre réponse. Moi, j'avais une dernière petite question pour vous, particulièrement par rapport à votre profession en tant que professeur. Vous êtes professeur à l'Université de Sherbrooke dans le domaine de l'histoire. Et moi, par rapport à la perspective de la condition des femmes, et même de la lutte contre les formes d'oppression en général et cette avancée-là. Je voulais savoir si vous, votre idée du rapport entre l'éducation et les pensées, et si vous aviez perçu une évolution dans les programmes scolaires, dans l'apprentissage scolaire, qui allait en même temps que le progrès, et quel impact ça pouvait avoir sur la jeunesse finalement.
Bien sûr, j'ai mon point de vue d'universitaire. Je suis moins au fait de ce qui se fait dans les niveaux là, secondaire, collégial. Mais d'une part, moi, il me semble que les garçons, les jeunes hommes qui sont inscrits à l'université à qui j'enseigne ont changé depuis 2001. J'ai commencé à enseigner ici à l'Université de Sherbrooke en 2001. Et je trouve qu'on a affaire à une jeunesse beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sensibilisée à la question de l'égalité. Je vois aussi des hommes qui sont soucieux que les femmes prennent leur place, qui accueillent davantage la parole féminine. Donc, tout ça, je pense que c'est des changements extrêmement importants qui se font, qui sont le fruit d'une socialisation un peu différente, tant au sein du foyer, de la famille, qui est toujours le premier lieu de socialisation et le plus important, et ensuite à l'école. J'ai l'impression que c'est là que les choses se sont acquises. Je sais pas si ça...
Oui,
ok. Ah oui, on voulait parler des programmes.
Ah oui, aussi, il y avait une évolution dans les programmes scolaires.
Bien, je voudrais quand même souligner notre certificat en études féministes et des genres ici à l'Université de Sherbrooke, qui de mon point de vue m'apparaît, je rigole un peu parce que j'ai envie d'en faire la promotion, mais il me semble que dans toute université, surtout dans les facultés de sciences humaines et sociales où les questions de rapport de pouvoir sont largement discutées, il faut faire une place à ces questions-là. L'Université de Sherbrooke a honoré cette promesse-là d'être une université qui va dans le sens d'une réflexion. C'est pas du militantisme, c'est des cours qui sont basés sur des données probantes, basés sur des lectures scientifiques qui ont été approuvées par les pairs, mais cette réflexion-là stimule donc les étudiants et étudiantes à être attentifs à ces questions-là. Et pour moi, je pense que l'Université de Sherbrooke peut être fière d'avoir passé cette étape-là de création de programmes vraiment dédiés qui rejaillissent sur l'ensemble de la programmation scolaire.
Bien, merci beaucoup pour votre temps. Ça a été super plaisant. Et je crois que le cours Famille politique, justement, est dans ce certificat-là. Il fait partie. On a pu faire, justement, ce cours-là. Moi et mon collègue Famille politique, et justement, on le recommande fortement avec la professeure Stéphanie Lantier. Que des bons mots à dire. Donc, c'est ce qui conclut l'entrevue. Merci beaucoup. Donc, c'est ça, en fait. C'est ce qui conclut l'entrevue de Louise Bienvenue, professeure de l'Université de Sherbrooke en histoire. Excusez-moi un peu, je vois mon collègue Enzo qui a failli échapper son micro.
Il n'y a pas de place au off avec Jérémy.
C'est...
Il décrit tout ce qui se passe sur le plateau. On devrait faire un podcast filmé. Un live Twitch. Non, je rigole. Mais non, oui, c'est ça. C'est ça. C'était intéressant. Puis d'avoir le comme je disais tout à l'heure, le regard
historique
d'une personne du monde, ouais, des études en histoire. Donc un regard du monde de l'éducation et du monde aussi de la recherche en histoire. Donc ça permettait deux perspectives sur la question de l'émancipation des femmes. Quel gain avait été fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Donc bien intéressant.
Prendre des pauses. Prenez des pauses, arrêtez de courir comme des fous.
Et la question du temps, Zach, elle a parlé beaucoup de la question du temps.
C'était
qui est une question qui est vraiment importante, dont on parle souvent dans la question du travail en général. Les travailleurs parlent souvent du problème du temps, parce qu'ils se font complètement manger par leur job. Puis c'était intéressant de parler que les femmes étaient encore plus écrasées par cette question-là du temps, par leur double oppression à la maison et au travail. Donc non, c'était bien, bien intéressant comme regard.
Donc, petite pause, on vous revient directement après. On a deux entrevues pour le prochain 15 minutes.
Université de Sherbrooke.
CFAC
88.3.
On est de retour 10h04. Prochaine entrevue, je crois qu'on va mettre Mélanie Noël, qui était, et non une panéliste, mais bien l'animatrice
c'est
du
vrai.
Panel. Petit fun fact, au final, on faisait des entrevues. On n'avait pas besoin d'aller chercher qui que ce soit pour les entrevues. Il y avait une file d'attente pratiquement.
On a été très, très bien accueillis, très bien servis. On nous envoyait des entrevues, donc ça a été très très simple à faire. C'est vrai que c'était merveilleux. Donc, mais c'est intéressant parce que Mélanie Noël nous a parlé du regard qu'elle avait sur justement, parce que c'était elle qu'on a été. C'est une journaliste de TVA, puis c'est aussi une scénariste.
De la Tribune. Pas de la TVA.
Une journaliste de TVA, puis c'est aussi une scénariste et écrivaine. Et donc c'était aussi intéressant de lui poser des questions sur la perspective qu'elle avait concernant les conférences et les émissions qui parlent justement de la lutte contre les oppressions, la lutte pour l'émancipation des femmes. Donc c'était intéressant d'avoir son regard malgré tout, même si c'est vrai qu'elle n'était pas dans le domaine de la recherche sur ces questions-là, contrairement aux autres panélistes, qu'elle était là en tant qu'animatrice. Mais c'était aussi intéressant d'avoir son regard et qu'est-ce qu'elle pensait justement de ce format et de l'événement en question.
Donc, je vous lance ça. On se revoit directement après pour une petite entrevue avec Gabriel Martin. Donc, on est maintenant avec Mélanie Noël, qui a été l'animatrice aujourd'hui pour le panel, justement, qui est en commémoration pour la Journée des droits des femmes, qui a travaillé notamment à la Tribune. Petite question que je pose de tout le monde pour débuter. Qu'est-ce que c'est, en fait? Mais votre question, on va changer un petit peu parce que, justement, vous l'animez. Qu'est-ce que ça fait, justement, d'animer, justement, un tel panel avec des gens que, comme vous l'avez dit vous-même, ont des CV, on n'en peut plus de parler de leur CV et comment que, justement, c'est des gens qui ont accompli plein de choses. Donc, je vous donne la parole.
Bien, moi, j'ai accepté d'animer ce panel-là pour quelques raisons. Notamment, le sujet m'intéressait beaucoup, évidemment, les droits des femmes. Aussi parce que c'était organisé par l'Association des Burkinabés de l'Estrie, que je connaissais pas avant. L'organisation, l'association, je la connaissais pas. Puis quand ils m'ont contactée, j'ai été marquée par leur dynamisme et leur engagement au niveau de la communauté et tout ça. Et puis, c'est ça, j'ai posé quelques questions en tant qu'ex-journaliste ou journaliste pour toujours, on pourrait dire. J'ai appris que c'est ça, c'était une communauté assez petite à Sherbrooke de 100 personnes environ. Et puis qu'une communauté mobilise autant de gens comme pour une activité comme ça, je trouvais ça très inspirant. Donc, et la qualité des panélistes aussi m'a attirée. J'avais envie de moi-même apprendre et entendre leurs réponses. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là. Et aussi parce que là, on était le 16, puis là, on disait, le 8, c'était voilà une semaine, mais je trouvais que justement, on devrait en parler plus souvent. Puis tant mieux s'il y a des activités qui s'étalent sur toute l'année pour parler des droits des femmes, parce qu'on a long à dire, comme on a pu écouter aujourd'hui les 6 panélistes. C'était quand même un défi, 6 panélistes, là, comme journaliste. C'est l'animation qui avait le plus de panélistes que j'ai connus, mais je pense qu'on s'est bien débrouillé, puis les panélistes étaient dynamiques et prêts à répondre, donc ça a été vraiment une belle expérience.
Mais merci beaucoup pour votre réponse, puis justement, là, comme vous disiez, vous vouliez apprendre justement, donc est-ce que vous pouvez parler un petit peu de est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris aujourd'hui qui vous a marqué peut-être justement dans la discussion justement des panélistes?
Ben j'ai appris plein de choses. Force est d'admettre qu'il y a des choses encore à faire, notamment quand on a fait un bilan de la condition des femmes encore dans le reste du monde. Il y avait des statistiques à glacer le sang. Donc ça, c'est un constat. Je pense que au Québec, il reste aussi des choses à faire. Plusieurs n'ont sorti. Au niveau des immigrants, j'ai appris notamment que au niveau des immigrantes qui demandaient l'asile, le 18% qui étaient issus de foyers violents. Ça m'a touchée parce que je pense pas qu'il y ait des hommes qui demandent l'asile pour. On sait que la violence peut aussi être adressée aux hommes, mais je pense que c'est vraiment une caractéristique qui touche plus les femmes. Donc, je trouvais que ça touchant et malheureux. Mais en même temps, en tout cas, agréable qu'on puisse leur ouvrir nos frontières. Puis en même temps, on dit, les délais sont tellement longs que si ça passe de 8 mois à 3 ans, c'est 3 ans que ces femmes-là sont encore dans des foyers violents. Donc, c'est un peu. Décourageant, mais il y avait quand même des pistes d'espoir. Il y avait beaucoup de choses positives qui arrivent, qui ont changé, qui ont été soulignées. Puis moi, je choisis toujours l'espoir et le dynamisme.
Bien, merci beaucoup, encore une fois, pour la réponse super élaborée. Vite comme ça que je me demande qu'est-ce que je pourrais vous poser.
comme je disais, c'est dans nos premières fois. On a eu une, justement, là, y a, un des panélistes a dit que justement, on y a demandé, vous lui avez demandé de faire une définition justement du féminisme et qui a tout de suite répondu une définition devrait être faite par les femmes, avant tout. J'aimerais avoir votre opinion par rapport à ça, justement, peut-être en tant qu'animatrice ou en tant que simplement femme, justement.
Bien, il a dit ça, puis en même temps, il a répondu. Puis je crois que c'est ça, ça il y avait l'expertise pour y répondre. En même temps, il y avait l'ouverture et la sensibilité de dire que c'est pas un sujet qui appartient aux hommes, mais les hommes ont le droit de commenter et de dire leur opinion, évidemment, sur la chose, surtout que lui a l'expertise du langage. Donc, puis je pense que, tu sais, la solution dans tout, puis qu'est-ce qui est ressorti aussi, puis qu'est-ce qui est important, je crois, c'est vraiment dans l'écoute puis la tolérance de façon générale. Donc, dans l'écoute au niveau des gens, on parlait après les panélistes entre nous, de prendre des actions qui font en sorte qu'on est en contact avec des gens qui pensent pas comme nous de base, qui ont des opinions différentes, puis d'être dans l'écoute malgré qu'on n'est pas d'accord. C'est le début d'un dialogue, puis c'est le début de l'harmonie ou de la tolérance du vivre ensemble. Donc, je dirais à tout le monde de s'écouter plus que de parler.
Donc, c'est ça. En fait, je m'en allais justement là, comme vous aviez demandé à tous les panélistes, quelle recommandation vous avez peut-être pour les femmes ou peut-être pas simplement là, pour les femmes, justement. Hein, Christine Labrie a applaudi le fait qu'on a presque atteint, mettons, la parité homme-femme. On n'a pas compté, évidemment, mais elle disait que c'est la première fois qu'elle voyait autant d'hommes. Est-ce que vous avez un souhait peut-être par rapport, justement, en lien avec la commémoration du droit des femmes?
Ben oui, comme tu sais, on parle souvent de la lutte des femmes, mais c'est ça, c'est pas une lutte des femmes, c'est la lutte pour les droits des femmes, que les hommes et les femmes devraient se serrer les coudes, se donner la main pour aller là. Puis c'est ressorti dans tous les messages quasiment des panélistes de dire c'est important d'avoir les hommes avec nous. Puis je veux dire, c'est un bénéfice pour l'ensemble de la communauté si les femmes ont les droits. Donc c'est pas au détriment de personne, c'est vraiment une valeur ajoutée pour chacun des membres de la communauté. Donc, vive les hommes qui luttent avec les femmes. Puis on lutte pas un contre l'autre, évidemment.
C'est comme, justement, c'était Gabriel, c'est ça? Oui, comme Gabriel disait, justement, écoutez-vous. Puis justement, c'est pas une opposition, c'est une... Excusez-le, je cherche le mot. C'est dans la recherche de la justice sociale. Donc, on garde ça en tête, puis... Merci beaucoup pour l'entrevue.
Je dirais même que Gabriel l'a dit, tu sais, non seulement de s'écouter puis de dialoguer, mais dans une vulnérabilité. Puis ça, j'ai trouvé ça beau parce que quand on se met dans cet état-là, on est plus à même de ressentir les choses communes qu'on vit.
C'est parfait, merci beaucoup.
Hey, merci.
Donc, c'est ce qui concluait l'entrevue avec Mélanie Noël. Qui était animatrice et qui a finalement été quand même d'apporter des super beaux points, des belles réponses justement élaborées. C'est super intéressant de voir son opinion parce que comme elle n'était pas spécialiste de la chose, elle était là en tant que simple animatrice. Donc elle a fini par apprendre des choses, comme elle disait, au travers de tout cela. Je ne sais pas si tu as une petite mémoire, Enzo, que tu pourrais nous donner... Comment tu t'es senti par rapport à cette entrevue?
Non, mais oui, puis j'ai trouvé ça intéressant aussi le point qu'elle a apporté concernant les femmes qui étaient obligées de demander l'asile, qui étaient littéralement obligées en fait de quitter le territoire dans lequel elles sont nées à cause de violences qu'elles subissent, de conditions terribles qu'elles subissent au sein de leur pays et au sein de leur foyer et de l'accueil de ces femmes-là. Donc effectivement, non, j'ai trouvé que ce point-là qu'elle a pu apporter dans l'entrevue était vraiment intéressant, qui est un point fondamental. Donc non, j'ai trouvé qu'elle a apporté des points vraiment importants et intéressants concernant cette question.
Donc on vous laisserait pour une petite pause musicale et publicitaire, puis on reviendrait après, en fait, c'est ça, pour l'entrevue avec Gabriel Martin et Christine Labrie.